Et pour finir, que vous soyez fidèle à mes écrits ou que vous me laissiez ma chance pour la première fois, je vous remercie sincèrement d'avoir choisi mon roman. Si vous en avez envie, voici venue l'heure de notre rendez-vous. Je vous imagine, relevant les yeux après avoir achevé votre écoute, entre deux mondes, revenant déjà au réel mais encore un peu dans mon univers. Un moment en apesanteur, rare, essentiel à mes yeux. Celui où vos sentiments et ma fiction se mêlent, redessinant les frontières. Celui où nous ne sommes plus que vous et moi. Je suis très attaché au lien unique qui existe alors entre nous, par-delà le temps et l'espace. Cette proximité particulière, née à travers l'aventure des personnages, mais qui puise son essence au plus profond de nos véritables natures. C'est à cet instant précis que vous décidez de me garder quelque part dans votre vie, ou de passer à autre chose. Une rencontre, ou un verdict, selon votre choix souverain. Je n'oublie jamais que je ne suis qu'une proposition. Pour en arriver là, pour que cette relation aussi fugace qu'intense puisse se tisser, il faut un chemin d'émotions parcourues ensemble, une histoire partagée, comme pour atteindre le sommet d'une colline d'où l'on verrait plus loin, comme après une vraie conversation avec un ami, ou un vol privé dont j'aurais eu l'honneur d'être votre pilote. Vous n'allez pas tarder à retourner vers ce qui occupe vos jours, à atterrir. Mais avant, où que vous soyez, quelle que soit l'heure, permettez-moi de vous tendre la main afin de vous aider à descendre les quelques marches qui vous ramèneront jusqu'à votre quotidien. Dans ma dimension, il est 6h20 et le soleil est déjà aveuglant. Après la représentation, il est temps pour moi de venir vous saluer dans cette belle lumière d'un jour naissant. Ce chapitre particulier est toujours le dernier auquel je m'attelle, parce qu'aucun de mes livres n'est jamais terminé tant que je ne vous ai pas écrit, parce qu'aucune émotion ne survit si on néglige de lui trouver sa place. Cette histoire compte énormément pour moi. Sous des dehors légers, elle évoque ces innombrables petits combats intérieurs qu'il faut mener pour devenir soi-même, ces choix qu'il faut avoir le courage d'assumer, sous peine de ne jamais découvrir qui l'on est vraiment. Quoi de plus regrettable que de passer à côté de la seule personne avec qui vous allez vivre la totalité de votre existence? On évoque volontiers les ouragans, les récifs et torpilles qui peuvent couler une vie. Mais on oublie que, plus discrètement, chaque coup de rame, aussi modeste soit-il, contribue à nous mener à bon port ou au naufrage. Ne lâchez jamais votre pagaie. Si je me trouvais auprès de vous, je vous demanderais comment vous allez. C'est dans ma nature. J'espère que vous vous sentez bien. J'ai très envie que mon roman y soit pour quelque chose, mais la question mérite de toute façon d'être posée, surtout après la période extrêmement perturbante que nous avons tous traversée. Puisque j'en suis à prendre de vos nouvelles, je vais oser vous demander comment se porte l'enfant que vous étiez. C'est l'un des thèmes de ce roman, et il est important. Quel que soit votre âge, j'espère que vous en êtes toujours proche, et que vous ne vous êtes pas perdu de vue, qu'il vit encore en vous. Quelque part, à l'abri, bien au chaud, toujours prompte à se manifester. Le fait que vous l'hébergiez ne vous vaudra pas une demi-part de plus aux impôts. Mais bon sang, qu'est-ce que ça fait comme bien d'aller jouer avec lui de temps en temps ou de lui demander son avis? Évitez quand même de lui laisser le volant ou de lui confier le choix des menus. Plus sérieusement, l'actualité récente nous a spectaculairement rappelé que notre histoire personnelle s'écrit dans un contexte qui, parfois, la dépasse, l'éclairant alors de manière inattendue. Les tribulations d'Eline et de sa joyeuse bande se sont développées en moi depuis longtemps, autour d'une conjonction de sujets. Mais leur pertinence a encore été nourrie par une notion fondamentale que notre époque a brutalement mise en avant. Ces temps d'isolement et d'immobilité, vécus seuls, à deux ou en famille, nous ont comme jamais obligés à reconsidérer la façon dont nous menons notre existence. Je ne connais personne qui n'ait pas remis en cause son mode de vie et ses priorités. À défaut d'aller vers un monde d'après, promis par ceux qui parlent trop en sachant si peu, il y a sans doute matière à définir un monde de maintenant qui nous ressemble davantage, d'abord sur un plan affectif. Dans quel état êtes-vous sorti de cette affaire? Ceux qui pensaient n'avoir besoin de personne en sont-ils toujours convaincus? La motivation de ceux qui cherchent l'âme sœur est-elle décuplée? Avez-vous changé vos critères de sélection? Quel regard les couples portent-ils sur eux-mêmes après cette expérience? Que ce chaos soit au moins l'occasion de poser une vraie question personnelle. Avec qui voulez-vous faire équipe? D'ordinaire, lorsque deux personnes se fréquentent, on dit qu'elles sortent ensemble. J'aime bien cette expression, joliment candide, presque désuète, d'un romantisme rafraîchissant, dans une période qui s'acharne à tout disséquer jusqu'au sordide. Sortir ensemble, cela revient à s'évader, à découvrir d'un même regard en avançant de concert. Les derniers mois nous ont cependant enseigné que dans certaines circonstances que nous n'imaginions même pas, lorsque deux personnes se fréquentent, il se peut qu'elles ne soient plus à même de sortir ensemble, mais qu'elles restent cloîtrées, soudain condamnées à cohabiter, ou à l'inverse, tristement privées l'une de l'autre. J'ai vu des gens que le contexte a obligés à se rapprocher alors qu'ils n'osaient pas, et pour qui tout s'est très bien passé. Ils ont gagné du temps. J'en ai vu d'autres qui hésitaient déjà à se séparer, et qui l'ont fait en connaissance de cause dès que c'est redevenu faisable. L'idée même de couple s'est soudain trouvée poussée au bout de sa logique. Les relations ont subi des pressions inédites, questionnant leur résistance et leur réalité. Un stress test fusionnel, en quelque sorte. Face à l'épreuve, chacun a tiré ses propres conclusions. Mais qu'il soit question de sortir, d'être séparé ou enfermé, le mot qui compte, c'est « ensemble ». J'ai peu de certitudes. L'une d'elles m'est pourtant clairement apparue pendant cette période surréaliste. Elle est venue confirmer ce dont j'étais de plus en plus convaincu à force d'observer mes semblables. Quel que soit votre cas de figure, l'importance de votre partenaire est encore plus cruciale qu'on ne le suppose. N'allez pas considérer cette affirmation comme une banale évidence, parce qu'elle nous implique au-delà du cliché anecdotique dans lequel on l'enferme souvent avec dédain. Il en va de ce que vous deviendrez, de votre capacité à résister aux chocs que la vie ne manque pas d'infliger. D'ordinaire, on ne passe pas forcément tout son temps avec son partenaire. Beaucoup de nos heures sont consacrées au travail. Et puis, chacun mène aussi une part de sa vie de son côté. Cette crise nous a contraints à plonger au cœur du sujet, sans échappatoire. Elle nous a obligés à faire la lumière même sur les zones d'ombre. Pour certains, cela a été l'occasion de conforter leurs choix et leurs engagements. Mais beaucoup ont découvert qu'en plus d'habiter avec une personne, ils vivaient aussi avec des doutes. Celui ou celle sur qui nous comptons, qui doit tout autant pouvoir s'appuyer sur nous, est définitivement un élément clé de notre existence, d'autant plus dans un monde aussi exigeant que le nôtre. Il ou elle nous permet de nous aventurer en confiance, au cœur de son intimité, pour mieux découvrir la nôtre. Il ou elle nous donne le courage de défier les limites qui, sans cet autre regard, pourraient paraître infranchissables. Il ou elle tient la corde de rappel qui nous sauve de nos failles. Sans l'autre, il est beaucoup plus difficile de devenir soi-même. Le meilleur chirurgien du monde ne peut pas opérer ses propres organes. Les plus costauds ne pourront jamais se soulever sans un appui. Il nous faut toujours un ou une complice, surtout lorsque la situation se corse. Beaucoup de fléaux menacent notre planète et nos civilisations. Sans rien, il y a franchement de quoi paniquer tous les jours. Les occasions de s'inquiéter sont si nombreuses que l'on en oublie souvent les raisons d'espérer. Je ne suis ni un optimisme béat, ni un niais pétri d'angélisme. Je pense cependant que l'on néglige les vraies solutions parce que toutes les analyses des problèmes qui nous assaillent restent dramatiquement incomplètes. Elles oublient de prendre en compte le seul paramètre qui conditionne ce que nous pouvons et nous motive en tant qu'individus. Pour les spécimens de notre espèce, la première des catastrophes, celle qui ouvre la voie à toutes les autres, c'est la solitude. C'est une maladie sournoise qui frappe sans distinction d'âge ni de fortune. La solitude peut prendre d'innombrables formes, mais elle engendre toujours les mêmes symptômes. J'ai appris à les identifier, partout, dans les rues, dans un magasin, lors d'une fête, ou même lorsque vous venez me voir. Ces regards qui fuient jusqu'à se perdre, les infimes inflexions d'une voix, ces gestes inachevés, ces sourires pleins de bonne volonté qui ne suffisent pourtant pas à masquer la réalité d'un état. Je capte tout cela. Je suis extrêmement sensible à ces désarrois, infiniment touché par ces âmes prêtes à se raccrocher à n'importe quoi pour trouver la force d'avancer encore un peu. Cela me bouleverse à un point que vous n'imaginez pas. Je sais ce qu'est un bord de falaise, et si je peux, je tends toujours la main pour amener ceux qui en sont trop près vers un sol plus sûr. Pourtant, être témoin de ces dièses de la vie ne me déprime pas, parce que la solitude est loin d'être une maladie incurable. Aussi sévère soit-elle, chacun a une réelle chance d'en guérir du jour au lendemain. Une simple rencontre suffit. Les antidotes à nos poisons nous attendent souvent dans le cœur de nos semblables. Je suis toujours surpris de constater à quel point l'on sous-estime les effets dévastateurs de la solitude. On publie des tonnes de statistiques sur ce que coûte telle ou telle plaie sociale, sur l'impact économique ou sociétal de certains maux. Mais on ne fait aucun bilan de ce que la solitude anéantit, directement ou indirectement. Il est vrai que ces victimes font en général peu de bruit, malgré ce qu'elles endurent. En dépit du nombre insensé de risques sur lesquels on nous alerte, personne ne nous enseigne comment nous prémunir de ce terrible sentiment rampant. Chacun se débrouille comme il peut, dans son coin, quitte à renoncer à tout. C'est ainsi que tellement de femmes et d'hommes, qui auraient tant à offrir, ne le donnent plus qu'à de précieux animaux de compagnie, qui leur apparaissent comme seuls dignes de purs sentiments. Je les comprends. Avec eux, pas de trahison, pas de faux-semblants. Fidélité, loyauté, rien d'autre. Nos fabuleux compagnons, aussi attachants soient-ils, ne peuvent cependant pas tout nous apporter, et la solitude s'étend insidieusement. Je suis tous les jours témoin de l'isolement de femmes et d'hommes remarquables qui, malgré les illusions de contact qu'offrent des technologies dont il faut user avec discernement, s'épuisent à chercher leur moitié. Ce manque absorbe une grande part de leur attention et de leur énergie, les entravant du coup dans tous leurs talents. Cette absence les fragilise et nous prive de ce qu'ils auraient à partager. Ce ne sont pas des drapeaux, des uniformes, des partis ou des dogmes qui nous rassemblent. C'est l'expérience d'un lien personnel, pratiqué de façon concrète, qui nous ouvre au reste du monde. Plus que jamais, ces derniers mois nous ont poussés à redécouvrir l'importance des alliances, soit parce que l'on espère en former une, soit parce que l'on a la chance d'en faire partie, soit parce qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur celle qui est en place. Les épreuves ne doivent pas être traversées en vain. J'ai l'immense bonheur de vivre une union heureuse, mais je ne me contente pas de considérer la vie au prisme de ce dont je bénéficie. Il nous arrive à tous d'être seuls, tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre. Je l'ai été, et j'en garde la mémoire même si je ne le suis plus. C'est parce que je ne l'oublie jamais que je peux apprécier sans m'habituer. Considérer un miracle comme un dû est le meilleur moyen de le gâcher. Je n'ai ni leçon ni méthode magique à vous proposer, mais un constat qui ne se dément pas. Quand vous êtes seul, l'unique remède, c'est l'autre. Éliminer l'isolement revient à naître une seconde fois. Dans vos traversées du désert, dans vos doutes, dans vos folies pleines d'espoir, dans vos attentes, tenez bon et cherchez. En imaginant cette histoire, j'ai constamment songé à celles et ceux qui n'ont pas encore la chance d'avancer accompagnés comme ils l'espèrent. Je leur dédie ce livre avec affection. Avec une vraie tendresse, je forme des vœux pour que celles et ceux qui cherchent finissent par trouver. Je vous souhaite de rencontrer celui ou celle avec qui vous pourrez courir en liberté. Je vous souhaite de vous allier avec celui ou celle auprès de qui vous pourrez apprendre, tester, imaginer et même vous tromper. Celui ou celle qui vous donnera de la force, parce qu'il ou elle vous permettra d'être fragile. Du fond du cœur, j'espère que vous croiserez la route de celui ou celle avec qui vous deviendrez vous-même dans toutes vos dimensions. Restez-vous fidèle, n'acceptez ni les rêves, ni les peurs, ni les dogmes des autres. Vous aurez bien assez des vôtres. Gardez le cœur, l'esprit et les yeux ouverts. Ne vous contentez jamais de ce que d'autres estiment suffisant pour vous. Si la consommation des biens matériels doit reculer, sur le plan affectif, elle a tout intérêt à exploser. Cela ne pollue pas et notre monde n'en sera que plus grand. Aujourd'hui, sous prétexte de contacts prétendument faciles, il est de plus en plus difficile de nouer de vrais liens. On nous brandit sans cesse des promesses ou des peurs, en nous imposant une image de la vie à travers ce qu'elle a de pire. Cette époque anxiogène nous pousse à nous méfier de tout, de tout le monde. On détruit la confiance, on castre l'envie. On isole les êtres, on les habitue à craindre leurs semblables. On nous assène un déluge de causes prioritaires, de révoltes obligatoires, de bons sentiments officiels, jusqu'à nous faire croire qu'essayer d'être simplement heureux à notre façon est un crime. Pour qu'un individu puisse réagir et prendre position, il ne doit pas lui-même être en souffrance. Combien de gens ont les jambes coupées parce que le soir venu, ils se retrouvent seuls, d'une façon ou d'une autre. Combien de fardeaux solitaires. C'est ce combat-là que chacun doit d'abord gagner pour lui-même. Cela nous placera ensuite en situation de remporter tous les autres. Avant d'aider autrui, aidez-vous sur un plan personnel. Exactement comme en cas de dépressurisation de la cabine d'un avion, lorsque les masques à oxygène tombent, Vous devez d'abord enfiler le vôtre avant de porter assistance aux autres. Tous les sauveteurs sont d'accord sur ce point. Alors pourquoi, dans notre époque, faudrait-il se précipiter sur tous les combats que l'on nous désigne alors que l'on a du mal à respirer? Cette crise nous a obligés à aller au fond des choses, dans des questionnements qu'il était encore envisageable d'éviter avant. Nous n'en sommes plus là. C'est une bonne occasion de repartir en fixant le cap. N'oubliez pas vos propres aspirations. N'ayez pas honte de choisir ce qui vous donne envie d'avoir du cœur. Décidez de vos combats. Si notre monde est en danger, c'est parce que ce qui fait notre valeur est sans cesse nié au profit de causes qui ne nous ressemblent pas. Je ne vous pousse pas à faire la révolution. Je vous parle de trouver votre bonheur, au quotidien, à votre mesure, et du coup de devenir capable de faire entendre votre voix, sereinement mais avec conviction, modestement mais puissamment, face à ce que l'on nous agite sous les yeux sans nous laisser aucun répit. Je suis convaincu que ce qui est bon pour le monde, c'est vous, en forme, responsable, capable de penser et d'agir au mieux de ce que vous pouvez. La somme de nos combats personnels façonnera un résultat global. C'est parce que la base est solide que le sommet peut monter très haut. Impossible de faire autrement. Je dois vous confier quelque chose. Je me demande souvent pourquoi j'écris et pourquoi j'aime autant cela. Je cherche en permanence à comprendre, livre après livre, à travers les idées, les espoirs et les doutes que je brasse, grâce aux rencontres, à tout ce que je vis avec vous, la réponse se dessine peu à peu. Depuis mes débuts, je sais que je n'écris pas avec l'idée de prouver quoi que ce soit à moi-même ou aux autres. Je n'écris pas non plus en espérant devenir une célébrité. J'ai coutume de dire que je n'écris pas pour les gens qui jugent, mais pour ceux qui ressentent. Pouvoir m'adresser à vous est un privilège. C'est la conséquence d'un lien que vous avez bien voulu permettre et dont j'essaye de me montrer digne. Mes histoires sont l'expression de ce qui me fait réellement vibrer, de ce qui me soulève et m'emporte. J'aime considérer mes romans comme des fables, des histoires qui, sous des dehors distrayants, abordent des sujets qui comptent pour moi et ceux qui me suivent. Je conçois mes récits comme des ponts lancés entre notre imaginaire et ce que nous sommes. Les livres ont un pouvoir unique. Toutes les émotions sensorielles qu'ils font naître éclosent en notre fort intérieur, au plus profond de nous, court-circuitant ainsi nos capteurs extérieurs, anesthésiés à force d'être sollicités. En lisant, on voit, on entend, on respire, on touche. Ces sensations normalement apportées par ce qui nous entoure arrivent pourtant de l'intérieur. Le livre nous conduit à puiser à nos sources souterraines. Avec le livre, on vit une absolue liberté de penser, sans pub, sans aucune interférence. Les émotions prennent nos remparts perceptifs saturés à rebrousse-poil, pour mieux les renforcer. Quel autre média accorde cela? J'aime qu'en parcourant mes pages, naturellement, vous vous posiez des questions sur vous-même, sur ce que vous appréciez ou détestez. Au fil des livres, j'espère que vous me considérez comme une jolie rencontre, comme le voisin, le lointain cousin ou le frère avec qui on passe un bon moment et qui tient sa place. J'écris avec l'espoir de trouver un écho dans vos cœurs immenses. Une note, si possible harmonieuse, dans la quiétude de votre vérité. Offrir des émotions reste la meilleure façon que j'ai trouvée pour être auprès des autres, en les faisant rire parfois, mais surtout en utilisant ce que je perçois et en le mettant en scène. Le rire pour le rire ne sert pas à grand-chose. Ce qui n'a pas de fond présente peu d'intérêt. On rit d'autant plus si l'aventure humaine s'ancre dans des situations réelles et des sentiments authentiques. Les douleurs, les doutes et les erreurs constituent à mes yeux un excellent terreau pour semer les graines d'une réjouissante fable. On me parle de mes comédies, mais avec celle-ci, par exemple, il est tout de même question d'une jeune femme déçue par sa vie et qui se demande si elle ne va pas finir seule. Chacun de mes romans naît d'un sentiment qui me touche. L'étincelle de celui-ci a été l'impression que l'on ressent tous un jour de ne plus avancer, que notre vie stagne. Même ceux qui n'affrontent pas de catastrophes faisant la une des journaux peuvent parfois perdre foi en la vie. L'usure du quotidien, les petites déceptions qui se multiplient, le temps qui passe, le manque d'accomplissement. Sans être des traumas spectaculaires, ces facteurs n'en sont pas moins destructeurs. Il faut d'autant plus s'en méfier qu'on ne les voit pas venir. Je considère l'humour comme le masque à oxygène de l'esprit, la bouée de sauvetage ultime. En tant qu'auteur, on m'a pris pour le type qui a écrit un roman qui a marché que l'on ne reverra pas, puis le type avec des chats sur les couvertures, le type qui écrit dans la peau d'une femme, le type qui fait rire. On passe notre vie à se voir coller des étiquettes, et ce n'est pas si grave. Celles et ceux qui me lisent savent qui je suis. Pour moi, l'humour est d'abord le meilleur moyen d'aborder des thèmes sérieux de façon indolore. On a moins peur des choses dont on peut rire. C'est aussi une façon d'être dans ma vie. J'aime rire. Peut-être parce que j'ai peur de tant de choses pour ceux que j'aime. Sans doute parce que beaucoup de ce que l'on me demande de prendre au sérieux en vaut si peu la peine qu'il n'y a rien d'autre à faire que de s'en moquer. Plus sérieusement, je suis convaincu que l'humour est la manifestation la plus chaleureuse d'une intelligence. Celui qui cherche à vous faire rire vous aime toujours un peu. Je préfère de loin les clowns aux donneurs de leçons. Avant de vous laisser, je souhaite rendre hommage à celles et ceux que j'ai côtoyés pour préparer ce roman. Les individus qui soignent leurs semblables ont toujours été très présents dans mes histoires. Déjà, dans un de mes premiers romans, j'écrivais que ces femmes et ces hommes sauvent l'honneur de notre espèce. Ce qui les rend essentiels à mes yeux, au-delà de leur profession, c'est l'esprit qui les pousse à choisir leur domaine d'activité et à le pratiquer en dépit des conditions souvent difficiles. Ce n'est pas tant le métier d'infirmière qui m'intéressait pour mon personnage principal, que ce que vit cette jeune femme au contact de ses patients. La formidable variété de ses rencontres l'amène à développer une vue panoramique sur l'humanité. Elle ne choisit pas ce dont elle doit prendre soin. Quand on y réfléchit, ce simple fait change tout. Les gens qui soignent ne sont pas là pour le salaire, ils vivent leur état d'esprit. Il est essentiel de le comprendre pour les aider et les valoriser. Bien sûr, l'hôpital n'est pas parfait, et certains individus n'y sont pas à leur place. Mais sur le fond, nous avons vraiment besoin d'eux. Les négligés revient à maltraiter nos propres défenses immunitaires. Ils sont les anticorps de notre société. On ne devient pas soignant par ambition, mais par nature. Ces femmes et ces hommes incarnent sans doute la plus noble définition d'une vocation. J'ai régulièrement été amené à fréquenter les hôpitaux, le plus souvent pour accompagner des proches qui n'en sont pas toujours ressortis. Même dans ces circonstances, j'ai toujours énormément observé les gens autour de moi. J'en ai tiré une sorte de culture hospitalière. Ce n'était cependant pas suffisant. Pour ce roman, j'ai souhaité passer du temps en immersion dans un service de chirurgie orthopédique. J'ai choisi cette spécialité parce qu'elle accueille des patients d'absolument tous les âges et que l'on en repart souvent en meilleur état qu'on y est entré. Je ne cherchais pas des anecdotes, mais la vérité des gestes, des êtres, dans leur force et leur fragilité. J'étais là en témoin. Ces femmes, ces hommes, j'ai pris le temps de les observer, jusqu'à ce qu'ils oublient ma présence. C'est alors que ma démarche prenait tout son sens. Capter des attitudes, des intonations de voix, des procédures standardisées que chacun exécute avec sa propre personnalité. On trouve souvent chez les soignants des êtres d'une grande empathie, qui savent raisonner au-delà de leurs propres intérêts. Cela me parle énormément. Je remercie très sincèrement le personnel et les équipes de l'hôpital Simone Veil à Aubonne. Merci à Madame Nathalie Sanchez, sa directrice, de m'avoir ouvert les portes de son établissement à un moment où la situation était encore plus complexe qu'elle ne l'est d'habitude. Un immense merci à Madame Séverine Caron, directrice des soins, pour nos entretiens aussi chaleureux qu'instructifs et pour m'avoir guidé dans son univers professionnel en répondant à mes questions les plus surprenantes. Ce n'est pas si souvent que quelqu'un est heureux d'aller à l'hosto, c'était pourtant mon cas. Merci au docteur Damien Pour, chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologique, de m'avoir accueilli dans son unité et d'avoir pris le temps d'échanger entre deux urgences. Merci à Madame Elena Sauvage, cadre de santé, pour son regard, sa patience et tout ce qu'elle m'a transmis en si peu de temps. Pour leur formidable accueil, leur gentillesse, leur franchise, leur superbe humanité dont j'ai été témoin à toutes les heures du jour et de la nuit, je remercie les infirmières Virginie Boulet, Victorine Fontenelle, Mireille Quatremain, Darian Stankovic et Carole Irangou, ainsi que les aides-soignants Laurent Lelarge, Charles Mpapé et Cédric Mboukou. Merci à Valérie Hubin, cadre de santé, pour cette discussion aussi sincère qu'émouvante. Ma gratitude à Sandrine Talec, amie d'enfance et responsable dans l'établissement, sans qui tous ces contacts n'auraient pas été possibles. Voilà des années que nous avançons en gardant le lien. Quand je repense à nos réjouissants échanges alors que nous étions collégiens et que je fais le parallèle avec nos conversations devant l'hôpital, je me dis que si nous sommes devenus un poil plus sérieux, ton intégrité, cette façon que tu as de penser le monde avec une hauteur de vue que j'ai toujours beaucoup appréciée, a toujours fait partie de ta personnalité. Merci d'être dans ma vie. Rencontrer des gens dans l'exercice de leur passion est un des vrais plaisirs de ma préparation à l'écriture. À mon sens, écrire n'est pas du tout une activité solitaire. Elle me donne au contraire l'occasion de me connecter à ceux dont je parle, à vous pour qui j'écris, et à ceux grâce à qui mes livres vivent leur vie. Je remercie celles et ceux avec qui j'avance, mes éditeurs, dans tous leurs métiers, les libraires et les lieux de partage des livres, les relais d'opinion, établissements scolaires, médiathèques et représentations étrangères. Permettez-moi de saluer Nora et Julien en leur présentant tous mes vœux. Je souhaite bonne chance à Sophia pour sa nouvelle vie au bout du monde. Bienvenue à Timothée, qui a beaucoup de chance d'avoir Marion Canary et Eric comme parents. Un très chaleureux clin d'œil à Mandy Descoutures, dont la bienveillante personnalité m'a donné envie d'utiliser son beau prénom, et certainement pas dans le rôle d'une méchante psychopathe. Merci à vous, à qui j'espère apporter un peu, avec qui je vis tant d'échanges surprenants. Merci de m'avoir suivi jusqu'à ces ultimes mots. Prenez soin de vous. On se retrouve au prochain rendez-vous, peut-être un mardi soir, 19h. En attendant, existez de toutes vos forces pour vous et ceux que vous aimez. Soyez heureux, c'est toujours possible. Chaleureusement, votre bien dévoué, Gilles.